Sécurité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, chamans, tradipraticiens, guérisseurs. Ces thérapeutes traditionnels peuvent-ils travailler en complément de la médecine moderne? Alors je vous propose aujourd'hui de faire dialoguer un chaman et un psychiatre. Les chamans ont développé depuis des millénaires des pratiques thérapeutiques qui interpellent de plus en plus la médecine occidentale et notamment la psychiatrie. Alors c'est ce que nous allons voir avec mes invités, le docteur Olivier Chambon qui est médecin psychiatre, qui est pionnier des méthodes de soins comportementales et cognitives. Il a créé le premier diplôme universitaire de psychothérapie intégrative à l'université Claude Bernard à Lyon. Laurent Hugueli, qui est chaman suisse, fondateur d'un centre de pratique chamanique. Ils ont coécrit ensemble « Le chaman et le psy, un dialogue entre deux mondes », c'est chez Mama Édition. Également avec nous, René Collignon, qui est psychologue clinicien, chercheur au CNRS, le laboratoire d'ethnologie et sociologie comparative, université de Paris-Ouest, Nanterre-La Défense, et qui nous fera le rapprochement avec les tradis praticiens. Et surtout, si vous souhaitez participer, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22. Et comme tous les jeudis, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano. Docteur Olivier Chambon, Laurent Hugueli et René Collignon, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour
à tous les trois d'être ici. Laurent Hugueli, tout d'abord, c'est quoi un chaman? Alors, on en a une vague idée, mais peut-être souvent un peu fausse d'ailleurs.
Oui, parce qu'en fait, je crois que c'est assez difficile à définir un chaman, c'est ça le problème. Il y a plusieurs définitions, il y a des définitions qui sont très académiques, il y a des définitions, on va dire, plus chamaniques. Une des définitions modernes que je trouve intéressante, c'est que le chaman, c'est un spécialiste des états modifiés de conscience et qui utilise ces états modifiés de conscience pour faire un travail de soins pour sa communauté, pour les individus également, pour maintenir l'équilibre, on va dire, entre le monde invisible et le monde visible. C'est ça, le travail d'un chaman. Ensuite, il y a des définitions donc, plus académiques dans lesquelles les chamans sont décrits selon des traditions, dans des cultures spécifiques, comme ayant une fonction sociale ou une fonction qui regroupe différents éléments. En fait, le chaman, c'est un petit peu l'ancêtre du coach, du médecin,
de tout ça réuni. On les trouve où, les chamans, d'ailleurs? Il y en a où?
Alors, les chamans, il y en a partout. C'est ça qui est intéressant, je trouve, parce qu'en fait, on a très longtemps eu une vision, on va dire, assez restreinte du chamanisme, dans laquelle les chamans sont limités à certaines régions dans lesquelles il y a des cultures traditionnelles, comme par exemple en Sibérie. Donc la Sibérie, c'est vraiment le berceau historique du chamanisme. Et également en Amérique du Sud, qui est très, très à la mode ou très médiatisée en ce moment, où il y a beaucoup de chamans. Mais mon opinion, et c'est une opinion personnelle, qui n'est pas forcément partagée dans les milieux académiques par tout le monde, c'est qu'il y a des chamans partout, sauf qu'on ne les nomme pas forcément chamans.
On peut les nommer tradipraticiens, par exemple.
Oui, ou sorciers, ou guérisseurs, ou magnétiseurs.
Alors, on a souvent l'image, enfin moi, l'image que j'avais d'un chaman, c'est un vieux monsieur barbu. Je dois dire, vous êtes jeune, vous êtes barbu, mais vous êtes jeune.
Je suis barbu.
Docteur Olivier Chambon, comment vous avez été amené, vous êtes psychiatre, médecin donc, à vous intéresser au chamanisme, parce que vous n'êtes pas nombreux à faire cette démarche.
Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'au départ, rien ne m'y prédisposait, puisque je suis d'un milieu universitaire tout à fait classique. J'étais chef de clinique dans un service universitaire de psychiatrie à Lyon, et puis ensuite praticien hospitalier. Je me suis formé aux différents types de psychothérapie dites contemporaines, dites classiques, c'est-à-dire thérapie analytique brève ou qui vient de la psychanalyse, gestalt, thérapie comportementale et cognitive, thérapie familiale systémique, etc.
Hypnose, bref. Hypnose.
Alors c'était après ça justement. Et donc dans un premier temps, avec ces thérapies classiques, j'ai développé avec le professeur Marie Cardine il y a une quinzaine d'années une approche dite intégrative éclectique. En fait, je l'ai pas développée moi-même. Disons que les Nord-Américains l'avaient fait depuis une belle durée, mais en France c'était assez nouveau de se dire plutôt que d'imposer aux patients notre définition du soin et nos concepts théoriques, on va adapter aux patients les différents instruments qui existent pour leur donner ce qui leur convient le mieux. Et ensuite, c'est vrai que vraiment ce qui m'a permis d'arriver au chamanisme, c'est quand je me suis intéressé aux états modifiés de conscience par le biais des psychothérapies, genre l'hypnose, genre le MDR. Et c'est intéressant parce
le
que...
Le MDR
alors, je vais vous dire ce que c'est que le MDR, mais avant, je vais vous dire que c'est intéressant parce que justement, Laurent définit justement le chaman comme quelqu'un qui est un spécialiste des états modifiés de conscience. Et justement, ces techniques-là, qui font partie de notre arsenal thérapeutique moderne, permettent d'appliquer des techniques chamaniques ou des principes chamaniques dans un cabinet de psychothérapie. Oui, alors le MDR...
L'hypnose, choses, on en a souvent parlé dans l'émission, voilà. Le MDR d'ailleurs de temps en temps, parce que le docteur Catherine Solano nous en parle.
Voilà, bon, le MDR c'est une technique maintenant qui commence à être connue mondialement, il y a eu beaucoup d'études qui l'ont validée comme étant la meilleure approche pour les traumatismes psychologiques, qui est une méthode très puissante, qui est à base de mouvements oculaires rapides, comme ceux qu'on retrouve pendant le rêve, lors du sommeil paradoxal, ou en hypnose, quand les gens ont les yeux fermés, ils ont les yeux qui bougent sous les paupières, c'est vraiment associé au retraitement inconscient des données par le cerveau. Donc le MDR met les gens en état modifié de conscience. C'est pas ce qu'on cherche au départ dans le MDR, mais moi je me suis formé à l'hypnose après m'être formé à l'MDR parce que j'ai remarqué que les gens étaient vraiment partis, quoi.
Et c'est ça qui a fait que vous vous êtes intéressé au chamanisme en vous disant mais finalement c'est peut-être pas si loin que ce genre.
Alors par le biais de l'hypnose, j'ai vécu une sorte d'expérience extraordinaire avec un contact, on va dire d'entité. Bon bref, et moi j'étais pas du tout dans cette optique-là au départ. C'est-à-dire moi je suis très rationaliste au départ. Issu d'un système matérialiste, cartésio-newtonien, etc. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre, il semble qu'il existe autre chose. Et après, effectivement, je me suis intéressé au chamanisme, au magnétisme, au reiki, à l'hypnopagnétisme. Et là, j'ai découvert des choses, effectivement, du domaine de l'invisible, c'est-à-dire les énergies, ou les différents mondes qu'on peut explorer dans le chamanisme. Et là, il y a une application directe pour les patients en cabinet de psychothérapie.
Laurent Hugueli, vous n'êtes pas né chaman, vous êtes devenu chaman. Et comment? Et alors vous dites dans le livre, j'ai essayé tout d'abord d'avoir une vie normale.
Oui, parce qu'en fait, en contexte traditionnel, en général, les jeunes chamans sont reconnus par les anciens. Donc, ils sont pris en charge, leurs dons sont développés et ça fait partie de la structure de la société. Donc, ce qui n'est pas le cas dans nos sociétés. Dans nos sociétés, on n'y a plus vraiment de tradition chamanique intacte, en tout cas en Occident, ce qui fait qu'on doit soi-même se prendre en main et soi-même se définir en tant que chaman d'une certaine manière.
Alors, pour moi, vous avez eu du mal à faire, d'ailleurs. Vous avez eu du mal pendant un temps à dire... Je suis chamane au début.
Oui, mais je le dis toujours pas.
Hein. C'est moi qui
c'est
dis.
Vous qui le dites. Et ça, dans la définition du chaman, il y a le fait que le chaman est défini par ses proches. Hein. Le chaman lui-même ne se définit pas forcément comme un chaman, mais c'est en fait ses patients ou les gens qui le côtoient qui vont dire « tu es un chaman » ou « le chaman ». Et d'ailleurs, Olivier a été une des premières personnes à m'appeler le chaman. J'ai trouvé ça très touchant d'ailleurs. Mais comment suis-je devenu chaman? Bon, c'est une longue histoire. Moi, j'ai toujours été intéressé par les questions de fond. Pourquoi, comment, d'où venons-nous? Et j'ai fait des études de philosophie, avec également un attrait très fort pour l'art. J'ai fait également des études d'histoire de l'art. Dans le but d'enseigner, je voulais en fait communiquer, on va dire, ces questionnements et peut-être des réponses possibles à d'autres personnes. C'était mon but. Mais durant mes études, j'ai très vite été confronté au fait que plus on pose de questions, moins on a de réponses, d'une certaine manière. Et c'est suite à quelques voyages, tout d'abord assez timides, on va dire, dans des peuplades chamaniques, que je me suis rendu compte que j'avais ça au fond de moi et que ça me parlait beaucoup plus que mes études rationnelles et que les milieux académiques ou que l'enseignement, on va dire, classique.
Mais comment vous vous êtes formé? Parce qu'il faut bien se former, je veux dire.
On se déforme.
Oui, c'est ça, il faut se déformer par rapport à l'éducation qu'on a reçue.
C'est ça.
Mais parce que c'est pas inné non plus, enfin je veux dire, il y a une partie de formation.
Oui, oui, bien sûr. Alors je pense qu'il y a une partie qui est innée, c'est-à-dire qu'on peut naître chaman, c'est-à-dire qu'on a peut-être déjà, quand on est enfant, des tendances à la rêverie ou à avoir des expériences extraordinaires qui sont pas forcément explicables, vu que nous n'avons plus les cartes ou les clés pour expliquer ces expériences dans nos cultures, mais qui sont facilement explicables d'un point de vue chamanique, et que beaucoup d'enfants ont d'ailleurs. Hein. Tous les enfants sont des chamans d'ailleurs, à la base, ça c'est mon opinion personnelle. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à voyager, j'ai essayé de me rapprocher de plus en plus des cultures traditionnelles, de certaines cultures traditionnelles. Et plus je me rapprochais de ces cultures, notamment au Mexique, plus je me rendais compte qu'en fait, dans ma propre famille, notamment du côté de ma mère, il y avait des personnes qui avaient ce type de... J'ai toujours entendu parler de mon grand-père que je n'ai jamais connu et qui parlait aux esprits, etc. Donc pour moi, il y avait vraiment une... tout cela, ça, c'est comme un puzzle, les pièces d'un puzzle qui se sont mises ensemble. Et tout ça a pris forme devant moi. Je me suis dit, mais mon Dieu, je suis né dans un milieu comme ça, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcément aller chercher à l'autre bout de la planète. Chez soi.
Et après, vous avez démarré un centre de chamanisme dans le Jura en Suisse, c'est ça?
Alors, pas tout de suite. En fait, j'ai d'abord enseigné le yoga. Je me suis intéressé au bouddhisme, au yoga. J'ai écrit mon premier livre, d'ailleurs, sur le bouddhisme. Et c'est suite à un voyage en Inde où j'ai eu un accident. Je me suis fait mordre par un singe. Alors, c'est une expérience qu'on peut voir.
Qui peut faire sourire,
mais qui n'était pas très drôle sur le moment. Et suite à cette expérience, étant donné que je ne pouvais savoir si ce singe avait la rage ou pas, et si moi-même j'avais la rage, voyage ou pas. J'ai dû attendre plusieurs années de mourir, tout simplement. Je n'étais pas sûr
de vivre,
c'est ça. Et suite à cette expérience, la seule personne qui a pu vraiment m'aider ou me donner des réponses, c'était un chaman. Et pour moi, ça a été vraiment le coup de grâce. À partir de ce jour-là, je me suis décidé à vraiment mettre
abandonner votre travail, votre vie normale.
Voilà, c'est ça. Donc, petit à petit, j'ai commencé à pratiquer, à prendre des gens en consultation et à délaisser petit à petit ma vie, mon ancienne vie, en fait, oui.
Priorité santé sur RFI.
Le réalisateur français Yann Kounen s'est intéressé aux cultures chamaniques des Chipibos, Conibos, au Pérou. Les chamans souvent considérés d'ailleurs avec condescendance, amusement, voire peur par le monde occidental. Yann Kounen raconte ses rencontres, ses expériences, sa reconstruction dans son film documentaire « D'autres mondes ». En voici un extrait.
Pour moi, leur art de soigner est une science de l'esprit. Leur plante une technologie de la conscience mise à disposition de l'humain par la nature pour entrer en relation avec elle et avec soi et comprendre ses alliances sacrées. C'est un chemin dangereux dans lequel il faut avancer avec prudence. Je ne peux que sentir le sang couler dans mes veines, sentir le plus infime de mes muscles. Mon identité se dissout dans ces images perçues comme des concepts cognitifs insaisissables par la pensée. À cet instant, dans cette expérience collective, je suis le primitif, éduqué et soigné par des créatures sophistiquées et bienveillantes.
Docteur Olivier Chambon, je voudrais vous faire réagir à cet extrait parce que à la fois ça paraît très intéressant, franchement ça paraît très bizarre.
Alors, ça c'est un peu l'aspect vu du dehors, l'aspect spectaculaire. Ce que j'ai oublié de dire dans ce qui m'a amené à m'intéresser au chamanisme, et ça a tout à fait rapport à ça, c'est que j'ai fait l'expérience de l'ayahuasca au Pérou, de l'iboga avec des gangas, avec des sorciers africains, et puis un certain nombre de substances psychédéliques, ce qui a donné lieu à un livre qui s'appelle « La médecine psychédélique, le pouvoir thérapeutique des hallucinogènes » aux éditions Les Arènes, qui était publié en 2009. Donc tout ça, ça m'a fait bien réfléchir, parce que ce sont des substances très puissantes. Très puissantes, mais très efficaces, notamment quand on parle de l'ayahuasca ou de l'iboga, ce sont des excellents outils pour traiter les toxicomanies. Toxicomanie à la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines, etc. C'est-à-dire tous les produits qui créent une dépendance. Ce sont des substances qui elles-mêmes ne créent pas de dépendance. C'est ça qu'on appelle les psychédéliques, qui élargissent la conscience, qui amènent la conscience d'autres mondes, mais qui ne créent pas de dépendance et qui ne sont pas toxiques. Et il y a des tas de recherches. Moi, dans mon livre, j'ai montré qu'il y a des tas de recherches médicales, parce que Yann Kounen, c'est l'aspect scientifique, artistique.
Pas scientifique, justement.
Oui. Mais il y a toute une recherche scientifique sur les propriétés de l'ayahuasca. En Espagne, aux États-Unis, au Brésil, enfin, il y a vraiment des études.
Pour essayer de comprendre comment ça marche et pourquoi
ça marche. Comment ça marche et quels sont les effets au long terme sur une population. Et les effets au long terme sur une population sont très positifs. Ça, les gens ne le savent pas. Mais évidemment, pas dans n'importe quel contexte. Et c'est là que les techniques chamaniques, tout le savoir-faire chamanique est très utile pour encadrer même les protocoles cliniques actuels qui sont faits aux États-Unis, en Israël, en Suisse, en ce moment avec des psychédéliques, font appel à des éléments chamaniques, mais qui ont été, on va dire, modernisés. Mais c'est très important ce rapport entre la culture ancienne et la recherche moderne.
Laurent Yuli, je l'ai dit, vous avez créé un centre de chamanisme dans le Jura suisse. Les patients viennent vous voir pourquoi ?
En général, les patients viennent parce qu'ils sont à une période de transition ou un point de transition important dans leur vie. C'est pas vraiment pour des pathologies classiques médicales. D'ailleurs, je pense que le chamanisme n'est pas une forme, ne remplace pas la médecine, bien sûr.
Oui, vous dites que vous avez une bonne grippe, vous allez voir le médecin.
Mais bien sûr. C'est plutôt lorsque ça coince depuis assez longtemps, lorsqu'il y a une étape à franchir, un projet à réaliser, pour ces raisons-là. En général, oui.
Et comment se déroule une séance de soins ? Vous faites quoi ? Ça se passe comment ? Ça dure combien de temps ?
Alors, il y a plusieurs versions. Il y a la version traditionnelle, comme on vient de l'entendre, justement, dans le reportage là, de Yann Kounen, qui dure. Les séances traditionnelles sont très longues et toute la communauté participe. Et nous, dans notre contexte culturel, on a dû adapter la pratique chamanique à notre manière de vivre, ce qui fait que la séance, en tout cas chez moi, les séances durent environ une heure et demie. Mais avec le temps, j'ai tendance à faire ça de manière de plus en plus chamanique, ce qui fait que je prends vraiment le temps de discuter avec les gens. Donc, une séance peut durer 2 heures, 3 heures. heures, 4 heures. Mais le travail chamanique...
Vous enchaînez pas les consultations, en gros.
Non, et d'ailleurs, j'en prends de moins en moins. J'ai essayé pendant... On est dans une phase exploratoire, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de réadapter ces techniques à notre manière de vivre. Donc, pour moi, il y a vraiment un côté... Au départ, j'étais parti dans une optique de faire des séances de 45 minutes et d'avoir un rôle de thérapeute classique, mais c'est impossible avec le chamanisme, parce que le chaman s'épuise. C'est-à-dire que vous chantez, vous dansez pour chaque patient. Et les chamans traditionnels font ça, mais ils sont soutenus par tout le groupe et ça se passe peut-être une ou deux fois par semaine et ça dure toute la nuit.
Tandis là, que, vous êtes tout seul.
Là, je suis tout seul et c'est tous les jours.
Donc et là, vous faites quoi? Vous commencez par quoi avant de danser et de chanter?
Alors, moi, je ne fais pas grand-chose et c'est ça qui est très beau dans ce métier d'ailleurs. Je commence par faire travailler la personne parce que je trouve important en ce début de 21e siècle que nous sortions du rapport, on va dire, classique du thérapeute par rapport à son patient. Le thérapeute a le pouvoir de guérir le patient. Pour moi, c'est le patient lui-même qui se guérit. Donc, je commence simplement par taper du tambour et à faire un voyage chamanique à la personne. C'est-à-dire, c'est un voyage qui se passe dans un monde imaginaire ou dans l'imaginaire. Ça, c'est l'explication occidentale. Pour un chaman, c'est pas imaginaire. C'est tout aussi réel que le monde en trois dimensions dans lequel nous sommes en ce moment. Donc, je tape du tambour et je chante pour la personne et je lui fais faire un voyage chamanique. Et suite à ce voyage chamanique, la personne me ramène des informations sur son état présent, c'est-à-dire où en est-elle dans sa vie, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les problèmes.
Ça veut dire qu'elle parle, elle vous raconte tout ça pendant ce temps-là?
Pas pendant que je tape le tambour, mais ensuite. J'arrête de taper le tambour et ensuite on discute 5 minutes. Et là, je commence à faire la vraie, entre guillemets, séance, c'est-à-dire que la personne se couche, je retape du tambour, je chante et je fais un voyage chamanique et je vais voir ce que je dois régler chez la personne. Oui.
René Collignon, vous travaillez, vous, sur l'anthropologie médicale. Est-ce que chaman et tradit praticien, c'est un peu la même chose?
Si on l'entend au sens large, oui, peut-être... Disons, le terme de chaman, en général, n'est pas utilisé en Afrique, si vous voulez. C'est réservé plutôt à des aires culturelles différentes. On a évoqué, par exemple, les chamans sibériens. Mais je pense qu'il y a quand même des points communs entre les pratiques des tradithérapeutes en Afrique et
par exemple, quels sont ces points communs?
Bien, peut-être que le thérapeute traditionnel joue une espèce de rôle de médiation entre une expérience singulière de la personne qui s'adresse à lui, souffrant, demandant de l'aide, et le collectif qui est présent, enfin le groupe. Et il y a tout un travail de transmutation, en quelque sorte, d'une expérience vécue de façon souvent dramatique par la personne souffrante, qui le singularise complètement par rapport à son groupe, et le rôle du tradithérapeute sera de transposer en quelque sorte par des techniques variables mettant en jeu des registres multiples la référence à des systèmes de représentation traditionnels qui donnent sens à cette expérience singulière.
Laurent Huguely, vous connaissez un peu les tradis praticiens en Afrique? Vous êtes intéressé aussi à ça? Vous nous avez dit que vous avez été en Inde, vous avez été en Amérique latine.
Alors, je connais très peu l'Afrique, mais par contre, je trouve très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, un des rôles du chaman est de réintégrer l'expérience de l'individu dans le contexte culturel. Et c'est un des grands problèmes que nous avons actuellement dans nos sociétés, c'est que le contexte culturel ne permet pas vraiment d'intégrer les expériences chamaniques. Donc les personnes qui vivent des expériences extraordinaires ou qui vivent des choses un peu bizarres sont d'une certaine manière soulagées de venir voir un chaman parce qu'enfin
elles vont pouvoir en parler.
Va pas leur dire qu'elles sont complètement folles. On va leur dire ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ça c'est une expérience chamanique ou une expérience extraordinaire.
Laurent Huguely, René Collignon et Dr Olivier Chambon se retrouvent dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler donc de ces relations entre le chamanisme et la psychiatrie. Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 56 40 18 22. You were right. You were right.
Priorité santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des relations entre le chamanisme et la psychiatrie avec le docteur Olivier Chambon, qui est médecin psychiatre, qui a co-créé le premier diplôme universitaire de psychothérapie intégrative à Lyon. Laurent Hugueli, qui est chaman suisse, fondateur d'un centre de pratique chamanique. Et ils ont co-écrit ensemble Le chaman et le psy, un dialogue entre deux mondes. C'est chez Mama Édition. Également avec nous, René Collignon, qui est psychologue, clinicien et chercheur au CNRS. Et on terminera en retrouvant la chronique du docteur Catherine Solano. Et je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de Vladimir Cagnolari au Gabon, c'était il y a 3 ans.
La femme qui est venue me voir pour son initiation, c'est une femme qui depuis sa naissance aujourd'hui, elle a 30 ans, elle n'a jamais eu d'homme, jamais eu de travail, donc elle se demande qu'est-ce qui ne va pas. Au départ, avant l'initiation, on fait ce qu'on appelle une consultation. Donc on essaie de voir, grâce à nos dons de médium, quelle est l'origine du mal qui mine son existence. Et on s'est rendu compte que elle a été bloquée. Pour un Européen, ça paraîtrait un peu bizarre, mais il se trouve qu'ici en Afrique, il y a des sorciers qui ont la capacité de pouvoir bloquer son existence. Et en contrepartie, ils utilisent ce que nous on appelle ici son étoile, donc ça veut dire sa chance. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Nous essayons de l'initier pour que là-bas, elle puisse trouver soit un ancêtre qui avait la capacité de pouvoir régler ce genre de problème, ou quelqu'un, ou un esprit, ou un maître spirituel qu'elle pourra rencontrer là-bas, qui lui donnera exactement les détails et les techniques qu'elle pourrait utiliser après pour sortir de là. Donc, puisqu'en fait, avant la consommation du bois sacré qu'on appelle l'iboga, il y a plusieurs purifications qu'on fait. Donc ça veut dire que le corps est plus ou moins préparé à recevoir des choses plus positives. Et nous ici on dit que c'est une nouvelle naissance. Plus jamais un sorcier ne pourrait mettre la main sur toi parce que désormais tu es dans l'aura du boutique.
Laurent Hugueli, quand vous écoutez ce reportage au Gabon, ça vous dit quelque chose en tant que chaman? Ça vous parle, ce genre de propos?
Oui, ça me parle, et surtout la question, qui est la grande question, bien sûr, la question politiquement ou spirituellement incorrecte du chamanisme, c'est la question des esprits. Donc il est question d'esprit, il est question de guide, d'une rencontre avec des esprits, et c'est en fait ça qui est au centre de la pratique chamanique, et c'est une chose qui n'est pas forcément... dites dans les livres de l'anthropologie de la vieille école, parce que la question des esprits a été balayée dans nos cultures, bien sûr, sur le fait qu'il puisse y avoir des entités intelligentes, invisibles, dans une réalité parallèle. Et pour un chaman, ça fait partie du quotidien. C'est un petit peu comme parler de la pluie et du beau temps, parler des esprits.
Et ça, effectivement, pour un esprit cartésien occidental, c'est un peu difficile à comprendre, cette notion d'esprit, de monde invisible, de...
Oui, c'est enfin.
Comment on peut le ressentir? Non, mais pour essayer de comprendre ce que vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire pour ressentir cette présence-là?
Alors, il y a plusieurs manières d'agir, bien sûr. Le chamanisme, c'est une science empirique, hein, c'est-à-dire, je dis une science, c'est-à-dire un savoir empirique qu'il faut pratiquer pour comprendre. On peut en discuter, on peut écrire beaucoup de livres, mais tant qu'on n'a pas fait cette expérience, il est difficile de l'expliquer. Ensuite, la question des esprits, je pense que la science va aller de plus en plus dans cette direction, notamment dans la physique quantique. Enfin, ce qui était incompréhensible il y a de cela un siècle commence à être entrevu, même scientifiquement, je pense. Je pense qu'un jour, on pourra...
Donc là, un jour, scientifiquement, on pourra prouver que vous avez raison, ce monde invisible existe, ces esprits existent. Oui, allez-y, vous voulez réagir.
Non, mais c'est déjà fait. C'est pour ça que quand on dit c'est pas rationnel, ça dépend de quelle rationalité on parle. Si vous parlez du 19e siècle ou du 20e siècle, oui, mais on est au 21e siècle et il y a des travaux de physique quantique qui montrent, qui accréditent que la conscience informe la matière, la conscience modifie la matière, l'observateur modifie l'observation et que tout est relié et que l'univers n'est pas une machine mécanique mais une grande conscience en action, en déploiement. Premièrement. Deuxièmement, ça fait une centaine d'années maintenant que la recherche en parapsychologie montre que la conscience a des capacités de non-localité, c'est-à-dire qu'elle est indépendante du temps et de l'espace. Indépendante du temps, elle peut voir des choses passées, rétrocognition, ou voir des choses futures, prémonition ou précognition. Elle peut être indépendante de l'espace, c'est-à-dire elle peut faire de la clairvoyance, aller voir à distance. Les remote viewers qui sont utilisés par l'armée américaine le montrent. Ils sont utilisés parce qu'ils sont efficaces.
Donc ce que vous dites, docteur Chambon, c'est qu'on sait que ce monde invisible existe.
Bien sûr, la physique quantique montre, enfin accrédite en tout cas montre, disons qu'elle rend tout à fait possible la notion sur laquelle il y a des mondes parallèles, et dans ces mondes parallèles sont habités par des énergies et des consciences.
Et ce monde invisible, il n'est pas du tout pris en compte par les médecins, par les psychiatres?
Non, c'est vrai. Pour l'instant, en tout cas. Ça commence à venir par le biais de techniques comme l'hypnose et le MDR, où les gens sont confrontés à des expériences extraordinaires. Ça peut être une expérience de télépathie avec son patient, un patient qui contacte un esprit d'un ancêtre. Et je vous assure que quand ça arrive, quand un patient contacte l'esprit d'un défunt, quand il était venu pour une thérapie de deuil par le MDR, c'est spectaculaire. Ça vous scotche, même si vous y croyez, parce que c'est d'un tout autre ordre. Ça n'a plus rien à voir avec l'imagination, plus rien à voir avec le fantasme et la rêverie. Il y a vraiment un contact interactif qui s'établit. Donc quand vous êtes témoin de ça par le biais de ces techniques, bah ça vous devient assez évident de chercher une explication. Et l'explication, on peut y trouver.
Et vous, en tant que psychiatre, vous avez bénéficié d'une initiation chamanique ?
Donc moi, si vous voulez, en tant que psychiatre, moi, je me
vous
suis formé...
Vous avez consulté, Laurent,
je me suis éveillé. Mais je me suis éveillé de plusieurs façons à ce monde non visible, par le biais du Reiki, qui est une technique d'énergie ou magnétisme, par le biais de l'hypnose, que je disais. Mais le chamanisme, bien sûr, je suis allé me former. Enfin, j'ai commencé une formation à la Foundation for Shamanic Studies, la FSS, qui forme aussi les francophones. La FSS, c'est une fondation qui avait été mise au point par Michael Lerner, un anthropologue américain, qui avait rassemblé les éléments centraux, corps chamanisme, chamanisme central, les éléments universels de tous les chamanismes, et qui les enseigne ensuite aux Européens.
Donc
et
vous
les...
êtes en train d'être formé?
Ah, je suis en train d'être formé, tout à fait. Je suis en train de commencer une formation longue sur 3 ans en chamanisme, etc.
Et quel est le regard de vos collègues médecins là-dessus?
Alors ça, je ne sais pas.
Et, vous leur en parlez
et,
pas.
Et ça ne m'intéresse pas de le savoir, sauf pour échanger intelligemment. C'est-à-dire que moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est de parler des gens qui ne connaissent pas la matière, qui n'en ont pas fait l'expérience et qui ont une idée de préconçue. Parce qu'on sait que dans ces cas-là, ils ne parlent que pour valider leur idée préconçue. Et c'est un dialogue de sourds.
Donc, ce n'est pas encore évident de parler tant que ça. Je voulais justement faire rebondir là-dessus, René Collignon. Est-ce qu'en Afrique, il y a un dialogue entre tradis praticiens et psychiatres? Est-ce que c'est possible?
Des tentatives ont été faites. J'ai eu la chance de participer pendant près d'une dizaine d'années à une expérience collective autour du professeur Colomb à Dakar, qui associait...
Professeur Colomb, qui est un psychiatre, médecin militaire, qui a justement travaillé dans les années 50, c'est ça à peu près?
Fin des années 50 jusque fin des années 70. Et pendant une vingtaine d'années, il s'est entouré d'une équipe pluridisciplinaire associant une réflexion de chercheurs en sciences sociales d'une part et de cliniciens hospitaliers d'autre part. Et de ce travail collectif, si vous voulez, est apparu notamment, je pense aux travaux de Zampleni pour ce qui concerne le pendant anthropologique de la question, qu'en Afrique, l'individu, contrairement à ce qui se passe dans nos sociétés occidentales, n'est pas tenu pour le lieu exclusif de la vérité de sa maladie. C'est-à-dire que l'approche n'est pas centrée sur l'individu, mais sur
son entourage,
sur son expérience dans un collectif, si vous voulez. Et il faut rappeler quand même qu'il y a une différence radicale de démarche des thérapeutes traditionnels qui sont beaucoup moins préoccupés de recherche de signes nosographiques. Il n'y a pas de nosographie, en quelque sorte.
C'est-à-dire
C'est-à-dire de description de symptômes qu'on organise en syndrome pour porter un diagnostic, comme on fait classiquement dans la médecine occidentale. Mais par contre, une approche qui insiste sur le côté de théorie interprétative des causes du mal. Et en fait, les systèmes traditionnels d'interprétation, si vous voulez, et les procédures thérapeutiques qui y sont associées, permettent à la tradition de mettre en forme et de manipuler des phénomènes que nous appelons pathologiques, si vous voulez. Mais les anthropologues utiliseraient un terme moins médicalisé et diraient malheur biologique, infortune, toutes les infortunes qui ne relèvent pas spécifiquement du registre de la maladie, par exemple, telle qu'on la conçoit en Occident, relèvent de leurs compétences. Ce qui fait la difficulté, si vous voulez, et on voit l'embarras dans le vocabulaire, on parle de guérisseurs traditionnels, de tradithérapeutes, toute une série de termes différents
terme
qui renvoient à une référence péjorative dans la comparaison qu'on fait généralement avec la médecine dite scientifique, cosmopolite, occidentale, et on voit là aussi l'embarras du vocabulaire, si vous voulez. Et donc, effectivement, cette expérience qui s'est passée à Fan a été de s'intéresser à ce qui se faisait traditionnellement, si vous voulez, et d'essayer d'en tenir compte.
Dans le soin des patients, justement.
Exactement.
Priorité santé sur RFI.
Vous voulez réagir, docteur Olivier Chambon?
Oui, je voulais corriger un tout petit peu mes derniers propos. Quand je disais qu'il n'y avait peut-être pas grand monde qui suivait cette piste, en fait, il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de psychiatres, mais bon, qui n'en parlent pas forcément beaucoup, parce que c'est
mais qui font la même recherche.
Mais qui font la même recherche que moi, tout à fait. Mais surtout qu'en France, il y a un institut qui s'appelle l'INRES, Institut National de Recherche sur les Expériences Extraordinaires, qui est coordonné par Stéphane Alix, et qui rassemble un ensemble de psychiatres connus, de psychologues, de chercheurs en sciences diverses, physiques ou astrophysiques, etc., qui s'intéressent aux expériences extraordinaires que vivent les gens, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas seuls, pas pris pour des fous, et qu'enfin une explication puisse leur être donnée, ou un sens, ou un accompagnement psychologique. Et l'INRES organise pas mal de réunions, justement. Nous, moi et Laurent Huglier, on avait participé à une soirée du chaman, justement, pour en parler. Et c'est là qu'on voit qu'il y a pas mal de thérapeutes, quand on finit une conférence, qui viennent nous dire « Moi, ça fait longtemps que je m'intéresse, je suis content que vous osiez en parler parce que moi, je n'osais pas en parler, etc. »
Laurent Huguenie, je voudrais qu'on vienne un peu plus précisément sur votre travail de chaman. On a parlé un peu de la façon dont se déroulaient les séances. Dans votre ouvrage, vous parlez de deux mouvements importants, l'extraction et le recouvrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ou est-ce que c'est trop compliqué? On doit pouvoir comprendre.
Oui, toute pratique chamanique est relativement simple à comprendre lorsqu'elle est, comment dire, détachée du contexte culturel. C'est lorsqu'on s'intéresse au contexte culturel, que ça devient vite compliqué, parce que chaque culture a sa cosmologie, cosmogonie, son folklore, etc. Mais les techniques en soi sont à peu près les mêmes partout. Et pour soigner une personne, donc vraiment au niveau du soin, proprement dit, il y a deux grands mouvements. Le premier mouvement consiste à enlever des choses qui ne doivent pas être là. Ça, c'est une extraction chamanique. Et le deuxième mouvement, qui est le mouvement inverse, tout simplement, on ramène à la personne des choses qui lui manquent. Et c'est tout. C'est tout ce que fait un chaman dans un soin. Soit on enlève des choses, soit on ramène des choses.
Et ces choses qu'on enlève ou qu'on ramène, c'est quoi?
Alors, les choses qu'on enlève, ça peut être un souvenir, ça peut être un traumatisme, ça peut être l'empreinte énergétique d'une relation, ça peut être un deuil, ça peut être l'esprit d'un ancêtre qui n'est pas encore complètement parti parce qu'on n'a pas terminé un deuil. Et les choses qu'on ramène, ça peut être ce qu'on appelle l'âme de la personne. Donc, traditionnellement, on utilise le terme âme, hein, qui est un terme très connoté, on va dire, religieusement dans nos pays, mais qui représente en fait l'intégrité spirituelle de la personne.
Est-ce qu'il n'y a pas des risques, des dangers, justement, dans ces pratiques?
Alors, ça, bien sûr, comme dans toute pratique humaine, il y a des risques, il y a des dangers. C'est une question d'intégrité aussi du praticien, je pense. Hein. C'est ça la chose la plus importante. En fait, dès le moment où on a accès à l'invisible, dès le moment où on a accès d'une certaine manière à la mémoire des patients, on peut, bien sûr, faire des bêtises. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important pour moi de développer une éthique, une déontologie chamanique, pour utiliser un terme un peu barbare, pour définir ce que l'on ose faire et ce que l'on n'ose pas faire.
Et par exemple, qu'est-ce que vous n'osez pas faire?
Alors, c'est très simple. Hein. On ne travaille jamais, on ne fait pas d'ingérence spirituelle. Ça veut dire qu'on va seulement travailler sur demande. Il faut que la personne formule une demande claire au chaman et ensuite on peut faire le travail. Mais on ne va pas travailler dans le dos des personnes, on ne va pas essayer.
C'est-à-dire une femme qui vient vous voir pour son mari, vous lui dites, amenez-moi le mari si vous voulez que je sois le mari, c'est ça?
Voilà, et même le mari devra me contacter lui-même. Tant que le mari ne m'aura pas contacté, je ne ferai rien. Et je pense que cette question-là, qui est la question justement de l'ingérence spirituel d'une certaine manière, c'est un des gros problèmes du chamanisme traditionnel, parce que dans les groupes chamaniques traditionnels, il y a beaucoup de relations chamaniques qui se créent dans le groupe et ça devient vite très compliqué. Nous, en Occident, on essaie de clarifier ça et de travailler avec une certaine transparence, ce qui fait que ça nous évite aussi pas mal de problèmes en tant que chaman. Hein.
Docteur Olivier Chambon, vous êtes d'accord sur ce fait qu'effectivement, il peut y avoir des risques?
Ah, bien sûr, plus une technique est puissante et active, plus elle comporte de risques. Regardez le traitement qu'on donne aux patients cancéreux, ils doivent être surveillés de près, parce qu'il y a des tas d'effets secondaires possibles. Donc bien sûr qu'il peut y avoir des risques, et c'est vrai qu'il y a un code éthique, une déontologie qui est la même que celui des psychothérapeutes à ce niveau-là. La non-ingérence dans les familles des patients quand les gens ne sont pas là, c'est ce qui se pratique en psychothérapie. On demande aussi aux gens de venir en séance ou de nous appeler personnellement, ça c'est tout à fait commun.
Hein. Et la manipulation peut aussi avoir lieu en psychothérapie justement d'ailleurs.
Oui, parce que manipulation au départ c'est un terme neutre. C'est-à-dire manipuler, ça veut dire utiliser ses mains pour façonner quelque chose. L'artisan quand il manipule...
Vous l'utilisez dans le mauvais sens du terme.
Voilà, manipuler c'est le faire à son profit. Et là, effectivement, un thérapeute en général, qu'il soit chamanique ou pas, enfin, il le fait au profit de la personne qui vient le voir, normalement.
Comment est-ce qu'on peut, Laurent Hugueli, trouver les bons chamans? Comment on fait, nous, pour savoir si c'est un bien ou un pas bien, si c'est des risques, pas de risques?
Alors, la quête du chaman, c'est une grande question, bien sûr. Je pense qu'il est important de faire des expériences, c'est-à-dire que nous avons tendance dans nos sociétés à chercher la sécurité à tout prix, ce qui est une bonne chose, certainement. Mais dans le chamanisme, c'est difficile. On doit parfois passer par des expériences difficiles ou douloureuses pour comprendre comment tout cela fonctionne. Mais comment reconnaître un bon chaman? Moi, je suis d'avis déjà que les chamans ou que patients et chamans s'attirent d'une certaine manière. Mais ça, c'est également valable dans les thérapies classiques. On attire un certain type de personnes. Moi, je ne vais pas attirer le même type de patients qu'une collègue ou qu'un collègue qui travaille différemment. Déjà, ça, c'est la première chose.
Il faut avoir un peu de feeling, comme on dit dans le langage
courant.
C'est ça, oui.
Ensuite, moi, je suis dans une approche assez sobre, assez transparente, avec de l'humour, et c'est important d'avoir de l'humour, je pense. Un chaman, d'ailleurs, on le dit dans le livre, un chaman qui n'a pas d'humour, moi, personnellement, j'essaie d'éviter. Dès le moment où ça devient religieux, très sérieux, où on commence à atteindre des objectifs spirituels qui ne sont plus du domaine du chamanisme, où ça commence à devenir justement quelque chose de plutôt spirituel ou trop spirituel, c'est plus vraiment du chamanisme.
Et on sort dans quel état de chez vous après une séance qui, vous l'avez dit, un peu durée jusqu'à 3 heures?
Bien. En fait, moi déjà, en tant que praticien, ça me met dans un état modifié de conscience. Donc, je suis d'une sorte d'euphorie à la fin de la séance. Donc, c'est plutôt agréable. Et souvent, les personnes qui sortent de chez moi sont comme sur un petit nuage pendant quelques heures ensuite. Hein, parce qu'on travaille sur les énergies et que ça fait bouger beaucoup de choses dans la personne. Et je trouve intéressant cette expérience de se ressentir différemment parce que ça permet aux personnes qui viennent de se rendre compte que toutes ces capacités les ont en eux. Toutes ces sensations, ce que j'appelle ça l'état de grâce. Hein. Il y a une sorte d'état de grâce quand on sort d'une séance de chamanisme.
Docteur Olivier Chambon, quel est l'intérêt de ce dialogue entre un psychiatre et un chaman?
Je pense que l'intérêt est surtout pour le psychiatre. Tu me contrediras si c'est le cas, Laurent. C'est surtout pour le psychiatre parce que ça lui amène à découvrir un domaine qui jusqu'à maintenant lui était totalement interdit par la pensée traditionnelle, c'est-à-dire les modèles analytiques freudiens ou même les modèles cognitifs ou comportementalistes, etc., qui restaient dans ce que j'appelle moi la science du 19e et du 20e siècle. Là, avec le chamanisme, on explore la science du 21e siècle dans la pratique. Donc pour moi, il y a énormément de techniques qui sont importables, qui sont utilisables. Pour moi, en tant que praticien, venant du chamanisme, par exemple, les recouvrements d'âme dont a parlé Laurent, ou les extractions chamaniques, on peut les faire en hypnose, en EMDR ou en EFT, par exemple. Enfin, je ne vais pas vous dire là aujourd'hui comment, parce que ça devient très technique.
Et qu'est-ce que vous allez mettre, alors, docteur Chambon, sur votre plaque? Psychiatre et chaman, une fois que vous aurez fini votre formation?
Non, je serai toujours psychiatre, psychothérapeute, hein, c'est mon titre. Mais c'est vrai que peut-être qu'un jour, j'habite à la montagne 4 jours par semaine et je travaille que 3 jours sur Lyon dans ma ville. Et c'est vrai qu'un jour, peut-être à la montagne, je me permettrai de faire un outil de pratique avec les gens de là-bas qui sont beaucoup plus tolérants et l'esprit ouvert parce que depuis tout le temps, ils ont des magnétiseurs, des rebouteux, des guérisseurs et eux, ça leur pose pas de problème. C'est plutôt quelque chose de nos villes et de nos mentalités scientifiques, universitaires qui posent problème. Les gens,
on est un peu réticents de façon générale en France à ces techniques-là, plus réticents que les Suisses ou les Américains, par exemple.
Je crois que la France est un pays très intéressant à ce niveau, parce qu'il y a une sorte de gêne ou de traumatisme chamanique, je ne sais pas comment définir ça. En Suisse, voyez-vous, moi je vis dans le Jura, pourquoi? Parce que dans le Jura, il y a des guérisseurs partout et je fais partie du paysage. Je ne suis pas quelqu'un
spécial. Vous choquez personne.
Je choque personne.
Je peux intervenir?
Oui, tout à fait, bien sûr.
Parce que je voulais juste dire une chose, après j'arrêterai s'il faut laisser le temps. Mais c'est qu'en France, c'est plus grave que ça, il y a de véritables sectes anti-sectes. Je m'explique. La Mivilude, psychothérapie vigilance, ce sont des gens qui persécutent, mais activement, tous les gens qui s'intéressent à la spiritualité, aux énergies, au monde invisible, et qui disent que c'est des charlatans, des manipulateurs, des escrocs. Donc en France, dès qu'on fait quelque chose dans le domaine du chamanisme, on est mis en danger en tant que professionnel. Moi, après mon livre sur la médecine psychédélique, j'ai eu un rappel de l'ordre des médecins parce qu'une association m'a classé comme secte. Alors j'étais secte à moi tout seul, c'est fantastique.
Ça, alors, deux réactions. René Collignon, d'abord, vous vouliez réagir?
Oui, enfin, sur ce plan-là, on peut faire un petit rappel historique. Si vous voulez, après la prise de pouvoir des aliénistes, le premier nom des psychiatres en France, pendant un demi-siècle, il y a eu de leur part un travail de lobbying considérable pour écarter tout ce qu'ils percevaient comme concurrence, c'est-à-dire directeur de conscience, curé, routeux, spirit.
Et on est encore un peu dans cet esprit-là.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, il y a un tel travail, disons, de pathologisation du rapport à la croyance, qui fait que évoquer la sorcellerie ou quoi que ce soit, qui relève de croyances traditionnelles partagées dans un milieu, est tenu pour délirant.
Laurent Huguely, un dernier mot ?
Oui, un dernier mot. Moi, par rapport à ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, moi, je suis en paix, en fait. C'est-à-dire que je pense que s'il y a ce type de mouvement anti-quoi que ce soit, c'est qu'il y a une raison, certainement. Le seul problème, c'est que je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de communication entre les gens qui font du travail sérieux, les gens qui s'intéressent à ce travail.
Donc, dialogue vous sert aussi ? Entre psychiatre et chaman.
C'est extrêmement important qu'on dialogue, mais avec tout le monde, avec toutes les personnes qui se posent des questions, pour définir une manière de travailler qui est saine pour tout le monde.
Voilà, avec transparence aussi.
Merci beaucoup.